avec Alliance Vita au service des plus fragiles.
Chers auditeurs, vous le savez, la fin de vie est sur le devant de la scène en France. Le 13 septembre dernier, le président avait annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie, dont le pilotage a été confié au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Durant 9 sessions de 3 jours, entre décembre et mars, les 150 citoyens tirés au sort pourront directement apporter leur vécu, s'informer, dialoguer et débattre afin d'esquisser des perspectives nouvelles, des consensus sur le sujet complexe de la fin de vie, sujet qui relève à la fois de l'intime et du collectif. Au final, ils devront répondre à l'unique question : le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? On peut remarquer que c'est une question qui appelle une réponse positive. Et on sent le débat déjà coincé par les situations limites et complexes de la fin de vie, les cas un peu exceptionnels. Il est question de débats apaisés, et le principe de cette consultation donne les signes ou l'illusion de l'écoute. Mais il est également bien précisé que le gouvernement sera libre de prendre en compte ou pas les préconisations issues de la Convention. Il devra simplement en informer les membres. Alors que s'est-il passé depuis le lancement de cette convention le 9 décembre dernier ? Nous en sommes à la 4e session de 3 jours. Les deux premières sessions ont constitué la phase d'appropriation. Dans la première session, l'euthanasie est apparue au sein de tous les groupes comme une question qui divise, très loin du prétendu consensus établi par certains sondages auprès des Français. Pour poser le cadre de la fin de vie à l'étranger, les deux seuls pays représentés étaient la Belgique, qui a légalisé l'euthanasie, et la Suisse, qui a admis juridiquement le suicide assisté. Et le choix des intervenants était encore plus surprenant, puisque les personnes qui sont intervenues pour donner un état des lieux factuel de la législation dans leur pays étaient un médecin belge fervent promoteur de l'euthanasie et l'association Dignitas, qui milite au plan national et international pour le libre choix et l'autodétermination jusqu'au dernier moment. Des personnalités militantes, donc, qui ont présenté un bilan sans nuance de la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté, souhaitant même son élargissement. Aussi louables soient les intentions affichées de neutralité et d'équilibre, on a comme l'impression que dès cette première session, les organisateurs n'ont pas vraiment respecté les consignes. Par la suite, toujours dans cette phase d'appropriation, des auditions ont été organisées auprès des acteurs de terrain, soignants ou bénévoles qui s'occupent des personnes en fin de vie. Et globalement, ils ont considéré que le cadre législatif actuel était satisfaisant, mais que cette loi était mal connue des patients et des soignants eux-mêmes. Ils ont déploré le manque de moyens alloués aux soins palliatifs et le manque de formation spécifique des soignants. Depuis début janvier a commencé la phase de délibération, au cours de laquelle les associations favorables à l'euthanasie ont eu la parole. Si elles se sont dites favorables au développement des soins palliatifs, elles ont défendu l'idée que la liberté exigeait que dans certaines situations très encadrées, l'euthanasie et le suicide assisté étaient nécessaires, plaidant pour une ouverture du champ des possibles. Et de nouveaux regards internationaux étaient présents lors de la 4e session, le week-end dernier, mais ils étaient majoritairement tournés vers l'euthanasie. Un médecin me disait récemment, lors d'une enquête pour Alliance Vita, que dans les débats actuels, il fallait arrêter de toujours regarder ce qui se faisait ailleurs et s'occuper plutôt de ce qui se faisait en France. Pourtant, il est important, je trouve, de prendre conscience que dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, les soins palliatifs sont en forte diminution ou que les critères stricts d'encadrement de la loi ont déjà sauté, comme par exemple au Canada où des personnes ont été euthanasiées parce que pauvres ou handicapées. Je pense à ce témoignage terrible d'Amir Farsoud entendu lors de l'Université de la Vie, un homme se déplaçant difficilement, bientôt sans logement et qui du coup ne voit pas d'autre solution que de programmer sa fin de vie et sa demande a été acceptée. Je pense aussi à Theo Boer, un professeur d'éthique de la santé aux Pays-Bas. Il était favorable à la légalisation de l'euthanasie dans son pays en 2003. Et il a été contrôleur justement de tous les cas d'euthanasie. Petit à petit, il a observé, constaté et a désormais complètement changé d'avis et de regard face à la réalité de ce qui se passe dans son pays et à l'impossibilité de réguler quoi que ce soit. Dans une tribune parue dans Le Monde le 1er décembre dernier, il met en garde la France. La France n'est pas en retard par rapport à ces pays. Elle a simplement pris un autre chemin. Et il est peut-être utile de constater que la voie que l'on a refusée jusqu'à présent nous aurait conduit vers ces pentes glissantes de la mort administrée. Le chemin choisi par la France est celui de la loi votée en février 2016 pour encadrer la fin de vie. Alors justement, lundi dernier, avait lieu une nouvelle session de la mission parlementaire présidée par Olivier Falorni, visant justement à évaluer la loi Claeys-Leonetti. Il a été rappelé qu'elle a été rédigée avec un triptyque qui est « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir et je ne prolongerai pas anormalement ta vie ». Un médecin a évoqué cette loi comme étant un trésor national, car elle porte une philosophie du soin qui questionne tout le monde du soin et pas que celui de la fin de vie. Mais 6 ans après le vote de cette loi, beaucoup reste à faire. Des dysfonctionnements sont pointés du doigt. Défauts de communication et d'information, directives anticipées inappropriées, risque de mise en œuvre de la sédation profonde et continue hors champ d'application, avec une absence de consentement ou un défaut de collégialité, par exemple. Alors avant d'envisager toute évolution de la loi, ne faut-il pas se donner réellement les moyens de la mettre en œuvre correctement ? Alors qu'est lancé un processus participatif qui pourrait inciter la France à légaliser le suicide assisté ou l'euthanasie, le porte-parole du collectif Soulagé mais pas tué, Philippe Pozzo di Borgo, nous invite à signer un appel intitulé « Ensemble pour les plus fragiles ». Je vous invite à le lire et à le signer, le lien se trouvera sur le site de Radio Lapourdi. Il se termine ainsi. Chers concitoyens qui réfléchissez à la fin de vie, avec la force de notre fragilité, nous vous le demandons pour le bien de notre société. Ne poussez personne à la désespérance, à l'auto-exclusion, au suicide ou à l'euthanasie. Protégez-nous d'une prétendue liberté de mourir qui presserait certains de nous quitter. Réaffirmez le droit de chacun d'être aidé à vivre et jamais à mourir. Alors la société que nous construisons ensemble sera plus humaine. Merci de votre attention. À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.